RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
Le Super Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Prince Ali est parmi nous ce soir, messieurs, dames, Ali Derbia et François Malardo, qui pour l'instant n'est pas prince, peut-être un jour.
Non, mais moi, je laisse la noblesse aux autres. Hein. Non, Fakir, non, très très peu pour moi. Je suis pas du tout maso. Non. Alors là, tu peux pas compter sur moi. Et toi, un titre de noblesse, peut-être?
Non, moi je...
Rien du tout.
Non,
rien.
Non, je suis un roturier. Voilà, comme voilà, nous sommes deux roturiers face à un aristocrate. Messieurs, dames, l'OM au programme dans quelques instants, juste après, parce qu'on n'a pas parlé du dernier match de 20h, Dijon-Metz, vous voulez en dire quelque chose? Très bien, merci Ali.
L'attentat de
oui, déjà, Djibouti
sur Roux, mon Dieu, il a fait un tacle, un attentat cantonesque.
Cantonesque, alors pour ceux qui étaient pas nés, allez sur YouTube, vous faites Cantona d'Erzakarian, Auxerre, Nantes.
Mais là c'est
vous verrez
principe,
attaque
c'était,
comme on en voyait que dans les années 60, 70, 80.
Il y a qui s'est pas taclé, non, mais, d'accord. Mais là.
Non. Eric Cantona dans les années 80, taclé, c'est pas qu'il savait pas tacler.
C'est un
il a voulu le tuer.
Oui,
et là, c'est la même chose ce soir. Autant tu vois un rouge pour Vercoute, tu dis non, là c'est du zèle. Mais autant ils le disent, c'est pas rouge.
C'est
même
qui...
quatre rouges d'un coup qu'ils voulaient mettre. Mais...
Et je sais pas,
et
après,
on sait pas
après
ce qu'il
s'énerve
prend,
après.
Que...
Après, il s'énerve encore.
Ah oui, après, mais il pète.
C'est vraiment, j'aurais plus retenu le raté énorme de Roux qui aurait pu donner la victoire
non,
à Metz.
Ah, attention,
c'est pas un raté.
Tant que ça, un raté.
Ça va vite. Hein.
Ça va très très vite.
Il
anticipe, évidemment, il fait son travail par rapport à la trajectoire du centre. Et puis, il est dévié par le gardien. Ça lui revient dessus, il a pas de bol, ça va pas dans les filets. Mais ça touche le gardien, ça revient encore sur lui et encore une deuxième fois pas de bol, ça sort. Mais
et si pour ce match-là,
raté.
Je vais dire à Dalal Gyol que le problème en fait, c'est que au moment où son équipe, le meilleur joueur de cette équipe de Dijon pendant tout le match, c'est Samaritano, tu gagnes 1-0, c'est le joueur qui fait la différence, qui garde la balle, qui faisait même le pressing et qui permettait à son équipe de Dijon de respirer, il le sort et après ils sont complètement acculés parce que tu as un joueur qui ne le garde pas le ballon. Ils se font égaliser et ils peuvent même perdre le match. Alors, pourquoi ce réflexe des entraîneurs français, dès que ça va, dès qu'ils sentent qu'ils veulent garder le score, on sort le joueur qui garde le ballon. On veut des mecs qui défendent.
C'est-à-dire que là, on rentre dans la période maintenant du championnat où le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Tu vas essayer.
Et la réponse, c'est
de détruire le jeu adverse au lieu de faire un peu de jeu, même si t'as pas les terrains.
Et puis c'est dommage,
tu l'as
le ballon. C'est beaucoup mieux de pouvoir le garder un certain temps que mettre des joueurs dans les 10 dernières minutes qui vont là pour essayer de le récupérer
plus,
ou de défendre.
En plus, c'est plutôt une volonté
dommage.
À Dijon d'essayer de faire du jeu, de montrer du jeu.
C'est vrai. Tiens, juste rapidement, on a Maël qui est supporter de Metz avant de parler de Marseille. Salut Maël.
Salut les gars, salut Gilbert, salut François.
Un partout, t'es content ou tu te dis mince quand même, cette casse de roue là, ça m'emmerde?
Ah mais clairement, même globalement sur la deuxième mi-temps, parce que on a été quand même pas mal sur la deuxième. Je sais pas, franchement ce match il me laisse un petit goût amer quand même, c'est vrai, mais bon. Après, j'ai regardé vraiment sur les dernières passes, sur les derniers gestes, on était vraiment y avait du déchet quand même. Donc bon, on pouvait espérer mieux, un petit peu voler le match sur la fin, mais je crois que globalement le nul c'était un résultat juste, quoi, on va dire.
Tu crois encore pour le maintien?
Bah écoute, à chaque fois je le redis, je pense qu'Ali s'en souviendra, mais je suis déjà passé, mais ouais, il faut continuer à y croire. De toute manière, là, ça fait déjà 3 matchs, on prend plus de points que sur tous les autres matchs qu'on a joués, limite. Voilà, bah il faut voir comment ça se passe demain, là, entre Saint-Té et Toulouse. Saint-Té, on les reçoit, donc la semaine prochaine. Donc bon, moi je continue à y croire. Il y a quand même du mieux dans le jeu collectivement. Franchement, ça tourne déjà vachement mieux. Après, voilà, il nous manque un petit peu de justesse. À l'image de l'occasion, du raté de Rivière par exemple, qui se retrouve à un moment avec un boulevard devant lui et qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Voilà, ces petites choses comme ça qui m'ont un petit peu embêté. Mais sinon, franchement, globalement, les mecs ils sont bien battus, quoi. Moi, je mets deux bons points. Le premier c'est Milicevic là. Petite recrue là qui a l'air bien de bien sentir le foot, quoi, d'être bien sympa.
Et Manjek, t'es content de le retrouver?
Bah Georges, ouais, c'est un guerrier, donc c'est sûr qu'il va nous apporter quelque chose. Et mais par contre, ouais, en parlant justement des joueurs offensifs, Selimovic, bien. Franchement, voilà, c'est bien, il se bat sur tous les ballons. Voilà, c'est un vrai guerrier aussi, donc sympa, sympa.
Mais ce qui manque, c'est vrai, tu as entièrement raison, c'est la justesse dans les dernières actions. On a vu souvent Metz se rapprocher du but à 3-4, et à chaque fois, l'avant-dernière ou la dernière passe, c'est toujours pas au bon moment, soit le mauvais contrôle, soit le contrôle trop long. Et c'est dommage parce que c'est toujours ces occasions qui peuvent faire du club.
Maël, vous avez, enfin à mon sens, vous avez un joueur qui est capable dans le jeu de passe, qui est techniquement, qui a le bagage. Alors il est certes très très jeune, on ne le voit quasiment pas à Metz, peut-être à cause de son âge. C'est le petit prodige luxembourgeois, Thiel.
Mmh. Ouais, j'étais sûr que tu allais en parler. Ouais, bah effectivement, c'est vrai qu'on le voit pas trop. Alors après, à savoir si l'entraîneur pense qu'il est un peu tendre ou pas, je ne sais pas.
Ça fait depuis un an et demi qu'il est... Non, plus d'un an et demi, mais Isberger pensait pendant un an et demi qu'il était tendre. Hans pense qu'il est peut-être trop jeune aussi. Il faut lui donner une opportunité d'évoluer, ce gamin, je pense, dans un autre club à ce moment-là. Mais si on le conserve comme le club le fait, et dans les difficultés que le club traverse... C'est un joueur comme ça qui ressort un petit peu au niveau technique. Je sais pas, il doit y avoir des raisons, certes, qui font qu'il n'est pas titulaire avec Metz, qu'il n'a jamais été titulaire, mais pourtant, les observateurs et les scouts tressent des louanges sur ce joueur. Je comprends pas pourquoi on ne le voit pas. Surtout que dans une période difficile comme ça, comme disait Ali, il faut aussi t'en sortir par le jeu.
Mmh. Merci Maël, salut!
Eh ben merci les gars, et puis meilleurs vœux d'ailleurs, je vous ai pas dit ça, mais voilà. La santé, et puis à bientôt.
Ça marche, toi aussi, meilleurs vœux. Alors l'OM, les gars, on y va. L'OM impressionnant à Rennes, alors vous allez me dire, impressionnant. Tu regardes le PSG, ils en ont mis 6 à Rennes il y a pas si longtemps. Non, puis, mais ils ont quand même fait un beau match, les Marseillais. Moi franchement, j'ai été la première mi-temps notamment.
Cette équipe est plutôt réaliste, comme le dit François, parce qu'encore Mandanda te sort deux arrêts exceptionnel en début de match.
Moi j'en vois qu'un seul. Après il y a sur deux à bout portant. Il y a Sakai qui sauve sur ça.
Ouais, mais il fait des deux à bout portant et très bon. Et c'est les bons gardiens font les arrêts
déterminants
avant de prendre un but au début, pas quand ils en prennent un ou deux où là ils font des claquettes et des arrêts. Et après par contre, ils sont très réalistes, ils n'ont pas 10 millions d'occasions de but. Ça me fait plaisir encore une fois, c'est un joueur qu'on apprécie, Germain, qui marque un but, qui fait une passe décisive au bon moment et bien placé, mais ils sont très réalistes et je suis content parce que je veux vraiment qu'il y ait cette bagarre entre ces trois équipes pour ces deux places.
Moi j'ai trouvé les Marseillais plus opportunistes par rapport à l'apathie, par rapport au manque d'ambition des Rennais dans le jeu, encore une fois c'était un de mes points, mais quand tu ne fais rien pour essayer de contenir Luis Gustavo, tu l'obliges pas assez à défendre, tu lui laisses un petit peu les coups des franches, et c'est vraiment, vraiment, avec pas loin, avec Thauvin et Mandanda, le meilleur joueur marseillais cette saison, oui. Et de loin, d'une justesse technique, c'est le Thiago Motta, olympien. Tu le laisses autant jouer, tu n'es pas dans les duels, tu n'es pas agressif, c'est pas un gros mot quand même de dire que ce sport, c'est avant tout un sport de duel, et les Rennais là-dessus, ils sont d'une faiblesse, ils sont d'une absence qui est criarde, quoi. Alors, et les coachs se succèdent, ça bouge pas.
L'incompréhension, Cazeri qui est sur le banc.
Cazeri se blesse vite.
Cazeri, c'est blessé au pectoral, là.
Rapidement.
Alors, on va écouter Rudy Garcia.
Ça, c'est important aussi pour cette équipe de
Rennes. Rudy Garcia, vous allez voir, il est super content. Surtout concernant la première mi-temps.
On avait vraiment, vraiment envie de mettre la pression aussi sur nos adversaires directs. C'est une des rares fois où on joue avant tout le monde. D'habitude, on suit. Et on regarde ce qu'ils font et après on doit jouer. Et Dieu sait si ça court vite devant. Donc pour l'instant on a rattrapé Lyon et Monaco. Et maintenant on va regarder tranquillement, voir si on se rapproche un peu ou pas.
Voilà, par ailleurs il a dit qu'il était très content de la première mi-temps de l'OM ce soir. On a Neil qui est avec nous, supporter de l'OM. Bonsoir.
Salut les gars.
Ça va?
Salut Neil.
Ça va très très bien. Écoutez, c'est un honneur de vous avoir au téléphone.
Eh ben écoute, on est ravis. C'est la première fois que tu es avec
nous. Ah oui, c'est la première fois. Ça fait des années que je vous écoute. Bercé mes nuits étudiantes. C'est un honneur.
Eh ben non, mais c'est.
Ça fait combien d'années que tu essayes?
Un honneur pour
non,
nous.
Non, ça fait combien d'années qu'il essaye? C'est la première fois?
C'est la première fois.
Ah ben voilà, jackpot.
Le jackpot, messieurs dames, le jackpot.
C'est un jackpot pour ça. L'OM, là.
Ça, c'est Gilbert, ça.
Ah, mais jackpot. Là, c'est parfait. C'est après-midi, franchement parfait. Pour revenir sur le match, mm-hmm. je vais vous dire, au début, moi, j'étais vraiment inquiet. Voilà, c'était un match pour moi symbolique. On se rappelle que c'était la première défaite de la saison.
À domicile, ouais.
À domicile avec Abdenour en charnière centrale avec Adil Rami. Un gros fiasco d'ailleurs. Et là, à partir du début du match, je me suis dit, oula, les premières offensives rennaises ont été très tranchantes, sur le côté gauche notamment. Notre King Bounassar a eu beaucoup de mal. Mm-hmm. Mais néanmoins, voilà, on a eu un Sanson extraordinaire, un Gustavo, comme d'habitude, vraiment. Franchement, je trouve pour moi que Gustavo, il n'y a pas mieux en Ligue 1, déjà.
Ah bah, on
Gustavo, c'est souvent Gustavo. C'est le meilleur Gustavo. Joueur de la Ligue 1.
Oui. Meilleur joueur de la Ligue 1 pour toi, carrément.
Pour moi, complètement. Complètement.
C'est vrai qu'il n'est pas loin, hein, parce que là, il a des statistiques et
Cavani,
il prend complètement.
Neymar, Falcao.
Non, mais c'est quand même, c'est le patron de l'équipe de Marseille.
Gilbert, je comprends.
Et ce qu'il faut surtout, en fait, Naël, c'est surtout pas que notre ami Gustavo se blesse. Ou soit suspendu.
Oui. Voilà. C'est justement, j'allais en venir. On a eu le pépin avec Jordan Amavi hier. L'absence de 4 semaines qui va nous faire mal, je pense. Mm-hmm. Surtout si on ne recrute pas, parce que Sakai à gauche, on voit, il n'est vraiment pas à l'aise. Hein. Il n'a pas ses repères. Et Bounassar défensivement, c'est catastrophique.
Mais c'est là que je critiquais les dirigeants, ou voire même Rudy, concernant, pour mettre en valeur le centre d'information, de pas faire jouer Rokia.
Alors
que s'il ne joue pas là, comment tu veux que le jeune qui est censé être une locomotive avec Lopez du centre d'information puisse s'exprimer sur le terrain? Ça, c'est incompréhensible. Et ils nous ont ressorti Bédimo qui avait disparu complètement.
Bédimo, il a un peu d'expérience quand même.
Non, c'est un beau joueur. Mais tu ne le fais pas disparaître complètement et d'un coup, tu le feras apparaître. C'est dommage.
Il a dû estimer que la doublure. Il pour Metz, il a dû estimer que Orca était trop jeune. Et Sakai à gauche, il n'a pas démérité. Hein.
Défensivement, il a pas démérité, mais offensivement, c'est dur.
Non, mais il est bien sur son côté droit.
Il est pas sur son
bon pied. Tu nous parles pas de Thauvin ?
Ah si, bah justement, j'allais en venir. Thauvin, comment dire, c'est miraculeux. Disons que après son retour à Newcastle, on a eu un nouveau Thauvin, un Thauvin changé, un Thauvin mûr et un Thauvin très très offensif et très efficace. Là, sur 20 matchs, il est à 9 buts et 8 passes décisives, dans le top 5 des joueurs les plus efficaces d'Europe. Et pour moi, justement, Thauvin a sa place en Coupe du Monde.
Ah, j'allais justement te dire, je pense
qu'il
ne
faut pas trop s'inquiéter de ce côté-là.
Ah bon? Non, tu crois que c'est acquis?
Moi, j'ai des inquiétudes quand même.
Attendez, j'ai pas dit que c'était acquis. Je pense qu'il a de grandes chances d'aller en Russie et d'être dans les 20 points.
Non, tu as dit, il ne faut pas trop s'inquiéter de ce côté-là.
Moi, je t'ai dit,
mot pour mot.
Mot pour mot et mot à mot, les deux, madame.
100% non. Je pense que c'est à 90%.
Moi, je pense que Thauvin est parti des 2-3 pour qui c'est en balle.
Balotage.
Non, moi, je pense surtout que maintenant, il fait les bons choix. Avant, il driblait quand il fallait faire la passe, et le contraire. Ben maintenant, il est dans la réflexion, bien sûr, c'est la maturité d'un joueur qui progressivement au fil des matchs est entouré de bons joueurs. Et je pense que l'équipe de France lui a fait aussi du bien. Et donc,
mais il a seulement 24 ans, Thauvin. Son fiasco de Newcastle, pour moi, lui a fait le plus grand bien. Mm-hmm. Il est revenu changé. Et ça se voit sur les buts.
Pardon, hein, c'est la deuxième fois que t'en parles. Il est revenu changé. Quand il est revenu de Newcastle à l'intersaison, les supporters marseillais, vous lui avez vraiment pas réservé un accueil exceptionnel. Mm-hmm. Vous lui avez mis la tête dans le seau, et je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui a vraiment besoin, lui, de se sentir aimé. C'est pas un dur au mal. C'est pas un type
qui s'en fout
complètement de l'atmosphère. Et Dieu sait qu'au Vélodrome, elle est singulière. Non, Thauvin, il avait besoin de se sentir aimé pour être en confiance. Là, il est en pleine possession de ses moyens. Il est en pleine bourre.
Avec tout ce qui s'est passé.
Parce que le public le va dans son sens, et parce qu'il a fait la démonstration aussi qu'il était redevenu le joueur qui avait été transféré à Newcastle.
Tu fais le podium des meilleurs joueurs marseillais depuis le début de la saison. Tu as
Gustavo Thauvin,
qui est premier, Mandanda, qui est deuxième. Voilà.
Gustavo,
je sais pas, certains vont dire Gustavo, d'autres dire Thauvin.
Et Mandanda qui fait toujours les arrêts. Mandanda qui fait les arrêts.
Et si vous remarquez, sur le podium, les meilleurs joueurs marseillais sont les meilleurs joueurs de Ligue 1 à leur poste. Mandanda, pour moi, le meilleur gardien de Ligue 1, c'est sûr et certain. Gustavo, à son poste en Ligue 1, je trouve pas meilleur. Mm-hmm. Thauvin, il est dans le top 3 à son poste. À ma vie, pour moi, il est le meilleur latéral gauche de Ligue 1.
Oui.
Je pense.
Donc c'est vraiment.
On attendait de voir la continuité.
Il y a Roussillon qui est bon. Les arrières gauches, c'est un peu compliqué. Parce que Luis Gustavo, est-ce qu'on peut le comparer Gustavo avec Verratti?
Non.
Ou est-ce qu'on dit que c'est pas les mêmes postes? Bon, après.
Non,
avec Thiago Motta. Je peux comparer avec Thiago Motta. On chipote un peu, mais enfin bon.
Mais il est pas le meilleur milieu défensif de Ligue 1, Luis Gustavo. Mais il est dans les meilleurs. Il aurait sa place. Mm-hmm. C'est pas une
insuccession.
Il aurait sa place au PSG.
Non, mais il est quand même énorme.
Je trouve que Verratti
est énorme.
C'est
impressionnant.
Tu trouves que Rabiot est meilleur?
Il récupère énormément de
Gustavo.
Non, mais Gustavo freine énormément les attaques adverses, récupère énormément de ballons, rassure son équipe.
Dans le jeu,
il rassure son équipe et la différence, c'est qu'il est décisif parce qu'il a cette frappe beaucoup plus que les autres milieux de terrain.
C'est Thiago Motta.
Il a fait progresser un joueur comme Rambo Anguissa.
On peut dire Rambo, ouais, parce qu'il est costaud.
Rambo, oui. Et moi, j'aime bien le Rambo, il est très attachant, vraiment. Très
il est mieux maintenant, hein. Il est beaucoup mieux, il perd moins de ballons. Il perd moins de ballons, là.
Eh oui, mais bon, c'est quand même dur à le voir jouer, hein. On a l'impression que sur chaque contrôle, il va perdre la balle. C'est compliqué.
Mais ça va mieux, là, maintenant.
Bon, Neil, écoute, rappelle quand tu veux.
Écoutez, merci à vous. C'est possible d'avoir un petit t-shirt de l'afterfoot?
Quand on invite des auditeurs qui nous ont pas appelé pendant 9 années.
Tu y as droit, tu es un fidèle, tu y as droit.
Très gentil. Est-ce qu'il y a moyen que je passe une petite dédicace? Plusieurs dédicaces.
On va pas demander non plus.
Alors, c'est soit la dédicace, soit le t-shirt. Alors.
C'est une fois tous les 10 ans. La prochaine fois, c'est dans les 10 ans.
Allez, vas-y.
Ah, c'est gentil. Je passe dédicace à mes frères Wael et Wassim, à mon beau-frère Charben de Chauve. Une grosse dédicace à Fredo Hermel. Je l'adore. Mmh. À mes potos, à mon pote John demain qui va aller à la Beaujoire pour voir le match contre Paris Saint-Germain, ça va être compliqué, mais bon courage à mes amis nantais. Ça va être dur.
Et moi, là, je peux passer des dédicaces, monsieur Brivois, c'est possible un peu.
Et à ta copine.
À Nico alias Rambo Anguissa. Voilà.
Salut Neil.
Salut Neil.
Bonne soirée. Allez, on enchaîne. Nordine est supporter de l'OM lui aussi. Salut Nordine.
Bonsoir la team.
Bonsoir, c'est un honneur, monsieur Brivois.
Nordine, t'étais à Rennes?
Ouais, j'étais à Rennes. Ben moi, comme l'ancien auditeur, c'est la première fois que j'appelle également.
Et voilà, t-shirt, dédicace, qui va voir.
Bravo Nordine d'avoir appelé.
Moi, j'ai fait le déplacement à Rennes en partant de Paris-Montparnasse. Donc, j'ai fait l'aller-retour, je suis parti en début d'après.
Ouais.
Et je suis revenu sur Paris aux alentours de 22h. Mm-hmm. Donc bon, à Rennes, donc, c'est pas un déplacement trop risqué. Donc on peut rejoindre les supporters qui partent de Marseille le vendredi soir.
Mais quoi qu'il y a eu des problèmes.
Il paraît que ça a un peu chauffé.
Il y a eu des bagarres en début d'après-midi près du stade.
Ouais, j'ai vu ça apparemment proche de McDo. Il y a eu quelques échauffourées entre les winners et quelques ultra-rennais, mais j'ai pas plus d'informations.
Il y a eu un blessé, un point de suture pour un supporter.
Ouais, moi j'y étais pas, donc moi j'étais aux alentours de 15h30. Donc moi j'aimerais réagir par rapport à Victor Marseille. Ben, comme l'auditeur précédent, moi je ne m'attendais pas par rapport au vécu qu'on a eu avec Rennes, notamment en début de saison et en coupe précédemment. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on est à un peu plus de 2 points en moyenne par match. Donc on a 41 sur 20 matchs, c'est pas mal. On reçoit en phase retour Monaco, Lyon, Nantes et Nice. Donc 4 du top 6, c'est pas mal. Donc c'est une bonne chose. Monaco qui piétine à Montpellier, mais bon, Montpellier qui a fait pas mal de matchs nuls contre les gros, donc ça c'est pas une surprise non plus. Là il faut confirmer contre Strasbourg et Caen, donc il faut prendre 6 points. Et franchement, on peut enchaîner une bonne série. Et ça peut être une bonne chose. Après, pour revenir sur le match, oui c'est vrai, on a eu beaucoup de réussite défensivement parce que Rennes aurait eu le mérite de marquer un but. Notamment début de deuxième mi-temps où Rennes a quand même poussé pendant 20 minutes où vous avez pas mal de fois la balle, alors qu'en première mi-temps on était à plus de 60% de possession d'après ce que j'ai vu dans les stats. C'était pas mal. Et pour terminer, sur la victoire de l'OM, dans l'ensemble je suis satisfait et maintenant il faudra confirmer. Moi ce qui me fait un peu de la peine, c'est pour Abdennour et Bistroglou et d'autres joueurs qui vont peut-être avoir une prochaine titularisation contre Épinal dans moins de 2 semaines. Et voilà. Moi je pense que l'équipe type va se dessiner autour de Sanson titulaire qui je pense qu'il va petit à petit reprendre sa place.
Tiens, d'ailleurs Sanson on n'en a pas parlé. Il marque son paquet de buts quand même, Sanson depuis le début de la saison.
Des buts importants, c'est ça qui est bien. C'est un joueur qui est en train de prendre encore plus de la valeur. Et surtout à côté de Gustavo là à 2. Là, il va apprendre encore plus énormément et il se projette très bien, mais toujours au bon moment et pas n'importe comment. Ça,
après, après Zambo aussi, bon, il est pas très mauvais. Bon, je trouve qu'il a un peu progressé quand même, donc on pourrait pas lui tailler dessus parce qu'il y a un coup de savoir à côté, donc ça lui facilite. Et sur les matchs que j'ai pu voir de lui, il y a eu du bon et du mauvais. Bon, il y a eu quelques pertes de balles, bon, face au cage, c'est quelques frappes de loin, mais bon, c'était pas trop ça. Mais bon, moi je suis content de voir Sanson aux côtés de Gustavo, et je pense qu'il y a une équipe type qui se dégage, même si Amavi est absent, bon, qui va récupérer sa place et Saka à droite pour plus tard. Voilà, moi je suis optimiste pour les 18 matchs qui restent de l'OM, et le fait de recevoir des gros à domicile, ça doit enflammer le stade dans les prochaines semaines.
Nordine, tu trouves pas que, je comprends, hein, Sanson et Gustavo, techniquement c'est plus fort que Zambo, Anguissa et Gustavo, mais tu trouves pas qu'avec Zambo, Anguissa, Gustavo est un peu plus soulagé des tâches défensives, et on le voit encore ce soir, cet après-midi plutôt, il a pris un carton, le Brésilien.
Oui, c'est vrai, parce que ouais, Sanson il est un peu plus haut, donc il est proche des joueurs offensifs, et donc du coup sur les contres rennais, c'est vrai que Gustavo peut se retrouver un peu en difficulté et un peu en retard sur certaines actions.
Et oui.
Alors que Zambo, l'ai vu lors du Classico, il était pas mal dans l'agressivité, bon, comme toute l'équipe de l'OM bien sûr. Et voilà. Mais après, dans les phases offensives, je pense que contre les équipes où on est censé être supérieur, voilà, Sanson, il apporte quelque chose. Et pour le peu de matchs titulaire qu'il a été cette saison, je pense qu'il a un ratio de but qui est pas si mauvais par rapport au poste qu'il occupe.
Merci Nordine.
De rien.
Merci Nordine.
Salut, et rappelle ciao, quand ciao. Tu veux toi aussi. Alors Rennes, maintenant, on va accueillir Arthur au 32-16, mais d'abord on écoute Sabri Lamouchi, qui a quand même donc, il y a eu 3 matchs à domicile pour Rennes en une semaine, là. Paris, Toulouse en coupe, et Marseille. Ils ont quand même réussi à prendre 11 buts chez eux en 3 matchs, hein.
Ça fait beaucoup.
C'est ouais, quand même une performance.
Avec des soucis en défense centrale.
On écoute Sabri Lamouchi.
Même si, je trouve que le résultat est lourd, hein, difficile, parce que les garçons étaient généreux. On peut pas leur reprocher grand-chose dans l'investissement, dans les efforts. Et on savait que ça allait être difficile. Marseille s'est mis en place, a été très solide ce soir et a justement mérité sa victoire.
Généreux ? Mais vous les avez trouvés généreux, les Rennais ? J'ai pas vu une équipe généreuse, encore une fois, dans les duels, dans l'intensité. Je trouve que c'est une équipe radine.
Pas agressive.
Mais pas généreuse. Évidemment, pas agressive.
Non, mais je pense
c'était le cas avant, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est vraiment un problème d'effectif. Et ils n'ont pas le manager qui arrive à changer la matrice de ce côté-là.
Peut-être qu'il est en train de penser à sa fameuse début de deuxième mi-temps, où là, les Marseillais ont eu du mal à les contenir. Donc
t'as trouvé que début de deuxième période, moi je m'attendais à Ali, pardon, te couper, mais je m'attendais à ce que Rennes leur rentre dans la gueule.
Ils n'ont pas. Ce n'est pas une équipe qui rentre dans la gueule de l'adversaire, on le sait très bien, cette équipe de Rennes. Elle a besoin d'un moment où l'équipe domine pour pouvoir s'exprimer. Et la sortie de Kazri, on le sait encore, fait énormément de mal à cette équipe. Et le problème, c'est qu'il n'y a qu'un joueur qui peut changer un petit peu. Il en faut deux ou trois, et c'est ce qui manque à cette équipe de Rennes.
Pourquoi, Ali, t'as besoin de Kazri par rapport au duel, par rapport à l'intensité défensive?
Regarde bien. Regardez.
Par rapport à...
Mais la preuve en est, c'est que...
À resserrer les lignes, récupérer le ballon.
Au niveau recrutement, cette équipe de Rennes n'a pas pris de leader. La preuve, c'est que Kazri joue attaquant, est obligé de jouer au milieu de terrain, et remarque ce qu'il fait bien, c'est que dès que l'équipe va pas bien, c'est lui qui va faire de pressing, c'est lui qui essaye de récupérer le ballon pour montrer l'exemple. Et malheureusement, c'est très malheureux qu'un joueur soit comme ça. Il y a André aussi qui est là souvent en plus pour pouvoir ça, mais il n'y a pas assez de joueurs dans cette équipe. Mais par contre, concernant Sabri Lamouchi, ce qu'on attendait aussi de lui, c'est que on l'attend sur quelques matchs, mais de nous montrer un petit peu sa patte, ce qu'il veut faire lui. Pour vraiment, on a entendu les joueurs qui étaient contents parce qu'ils s'exprimaient individuellement avec Sabri, mais on attend quand même.
Avant que tu montres ta
patte. J'aimerais que Arthur puisse
demander à tes joueurs d'être agressifs, d'être concentrés dans les duels.
Salut,
salut l'équipe, comment vous allez bien?
Salut Arthur.
Vous allez bien?
Salut, ça va et toi?
Salut.
C'est la deuxième fois en une semaine, écoutez, moi c'est parfait.
Bon, qu'est-ce que tu retiens là? Tu te dis, on est quand même encore en Coupe de la Ligue, en même temps on a perdu contre des gros. Moi je retiendrai les 11 buts encaissés en 3 matchs, mais bon.
Ouais, on retient forcément les 11 buts encaissés. Après, pour réagir un petit peu sur vos commentaires, voilà, on n'est pas été forcément conquérant. Moi, pour ma part, je trouve qu'on a été conquérant quelque part dans ce début de match, ou comme les deux supporters marseillais qui sont passés juste avant, voilà, l'ont dit eux-mêmes qu'on aurait pu marquer un ou deux buts. On a eu à faire face à un grand Mandanda, il n'y a pas à dire. il a sorti juste deux arrêts qui ont changé la tournure du match, parce que je pense que si Rennes inscrit un but sur ces deux tentatives, c'est pas forcément le même match. C'est sûr que, voilà, comme votre argument précédent, la caserie qui sort sur blessure, ça change pas énormément dans l'intensité, mais c'est quand même un joueur qui est capable de conserver le ballon dos au but, qui est capable de distribuer, et ça reste quand même très intéressant pour l'équipe.
Mais certes, mais on se focalise, Arthur, sur un joueur, Kazri, qui fait à peu près tout bien, certes, mais il est seul. Et puis, oui, Rennes aurait pu marquer, il y a eu un grand Mandanda, il y a eu un sauvetage sur la ligne de Sakai. Mais quand tu vois sur la physionomie globale du match, alors je sors de l'aspect duel et intensité physique, mais c'est une équipe même qui ne s'est même pas donné un autre rythme. Marseille rate un pénalty, enfin rate, pardon, c'est surtout Koubek qui fait un arrêt formidable sur magnifique. Le pénalty de Thauvin. Et là, je me dis, tiens, ça va peut-être leur donner un petit coup de boost parce qu'ils ont une entame de match pas si dégueulasse que ça, les Rennais. Et puis non. Et puis c'est en céphalogramme plat. Et puis il arrive ce que tu prévois qu'il va arriver, c'est-à-dire que l'équipe adverse, même si elle est un peu supérieure parce que c'est cet OM-là, eh ben, il marque, et puis après, plus de réaction. C'est ça que je pointe du doigt et qui est mes... déprimant, oui.
Et c'est peut-être.
Et je suis pas Jérôme Thomas. Hein.
Non. Et ce club-là, je pense.
Surtout que tu l'as choqué. Il rappelle besoin... quand même que Rennes a battu Marseille en coupe et en championnat.
Ce club a besoin de recruter des joueurs et des leaders qui eux donnent cette agressivité et ce rythme-là.
Cette grinta, tu voulais dire.
Et malheureusement, malheureusement, ils recrutent toujours le même style de joueurs.
Il faut qu'on s'arrête, le foot européen nous attend. Espagne-Angleterre au programme, les résultats de Ligue 1, je vous les rappelle vite fait. Marseille gagne donc à Rennes 3-0, Lille gagne à Caen 1-0, Dijon-Metz un partout, Montpellier-Monaco 0-0, Nice-Bamiens 1-0, Bordeaux gagne à 3-1-0. A tout de suite dans l'after avec Fred Hermel, le Real va mal.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Ils sont là, François Manardo et Prince Ali. Prince Ali, ah oui, alors j'ai trouvé...
Ah,
je suis un roturier, mais ça fait des jours et des jours que je me dis, François, il y a un truc, et en fait, ça y est, j'ai trouvé. Ah. Depuis que je suis allé au musée Tintin à Bruxelles, Docteur Müller.
Oui, ich eine und.
Docteur Müller dans Tintin.
Docteur Müller.
Docteur Müller dans Tintin. Crabe aux pinces d'or, coq en stock.
Pardon, les amis, là. Moi, j'étais plutôt sur le petit Gaulois avec les moustaches et le casquelé, et moins le petit Belge avec la houppette. Docteur Müller, je vais regarder ça.
Il va falloir que tu t'organises.
Tu connais le Docteur Müller, toi?
Docteur Müller dans Tintin, c'est toi.
Il t'a fait des petites couches quand tu étais joueur.
Mit einem Monocle.
Ah, exact. Juste le monocle.
Mais il était roturier ou aristocrate,
Docteur
Müller?
Non, il était docteur spécial.
Donc un peu dans des sales coups.
Ça peut être sympa, docteur.
Ouais. Dans les sales coups. Donc c'est mieux que Fakir.
Alors, avant d'accueillir Fred Hermel, deux, trois petites infos du jour importantes. Mercato, tout d'abord. Lyon serait prêt à faire une grosse offre à Lille pour acheter Terrier, qui est actuellement en prêt à Strasbourg. On parle de 15 millions d'euros pour la saison prochaine. Donc ça commence déjà à négocier. Terrier, qui n'a pas joué ce week-end, il était un peu blessé. Terrier, sa cote monte. Hein. C'est vrai qu'il fait une belle saison avec Strasbourg. Ouais, il a marqué ce fameux but de plus de 50 mètres face à Bordeaux, là, rappelez-vous. Avant Noël, il est parti tout seul.
Il avait l'autoroute.
Hein. C'est pas faux.
La rocade.
En tout cas, voilà, Terrier à Lyon, pourquoi pas la saison prochaine. C'est une info du soir. Concernant le mercato, Montpellier, je vous en ai parlé. IM Villa, la recrue stéphanoise, est dans le groupe pour demain. Donc il pourrait jouer contre Toulouse dès demain. IM Villa, qui vient de Kazan. Donc les choses se sont accélérées le concernant. Au niveau info du jour, je voulais également vous donner quelques infos PSG avant le match de demain face à Nantes. Vous dire que Cavani revient dans le groupe et que Neymar et Pastore sont absents demain. L'absence de Neymar est justifiée par une douleur chondrocostale gauche.
Ah oui, il a pris un bon...
Donc en gros, c'est mal aux côtes.
Exactement.
Hein, voilà. Pour faire plus court. Pastore, il reprend.
Pastore, c'est parce qu'il s'est trompé dans les calendriers.
Peut-être. Concernant le PSG, attendez, j'avais un autre truc. Ah oui, voilà. Nasser Al-Khelaifi, quand on parle et qu'il n'a pas donné l'orientation, ça l'énerve. Donc Thiago Silva, qui a fait sa sortie après le match à Amiens, ça l'a énervé. Pastore qui répond, ça l'a énervé. Il l'a dit, il a gueulé. Et du coup, aujourd'hui, rencontre entre Thiago Silva et Pastore, aujourd'hui ou hier, afin évidemment que les choses se calment et que tout reparte positivement. Voilà. Bien, le PSG ne supporte pas la communication non maîtrisée.
Ben, je les comprends. Après, je les comprends et toi moins, évidemment. Mais après, ils ont souvent une communication en réaction et non pas proactive. Ce qui n'est pas très bon signe, même si tu ne peux pas tout maîtriser, évidemment, et c'est normal. Mais t'essayes, en tout cas, avec beaucoup de discipline, de cadrer les prises de parole de tes joueurs. Et c'est difficilement le cas à Paris.
Duprat, victime d'un petit malaise, ne sera pas demain à Saint-Étienne.
Mais il va bien, a-t-il dit
voilà,
sur les réseaux sociaux.
Effectivement, il va bien. Malgré tout, par précaution, il sera pas demain à Saint-Étienne. Qu'est-ce que j'ai encore à vous signaler? Il y a deux, trois infos espagnoles qu'on va voir avec Fred tout de suite. Dernier mot mercato. Le jeune Fousseni Diabaté du Gazélec d'Ajaccio a signé à Leicester, jeune joueur de 22 ans qui n'en veut. Le Paris FC veut recruter Mathieu Duhamel qui a résilié son contrat avec Quevilly Rouen, donc il négocie avec le Paris FC. Voilà, c'est un petit transfert Ligue 2 qui peut se faire.
Paris FC
ouais. Bien placé pour pourquoi pas monter en Ligue 1. Ce serait étonnant d'avoir Paris FC en Ligue 1. Mais pourquoi pas.
Ça serait bien un deuxième club parisien.
Ce n'est plus arrivé depuis les années 80.
Le problème, c'est qu'ils ont un public rikiki quand même. Ils ont un petit cop.
Deux clubs de la capitale.
Il faudrait.
Enfin, deux clubs d'une même ville en France. Les amis, dites-moi si je me trompe, ça fait depuis les années Matra PSG, donc les années 80.
Ouais, exactement.
Ouais. Les années,
au début des années 90, le Matra était RP1 ensuite. Est-ce qu'il était en Ligue 1? Oui. Oui,
bah, oui, bien sûr.
Oui.
Donc il y avait voilà, depuis le début des années 90, il n'y a plus en France une ville avec deux clubs en Ligue 1. Après tout.
Si, il y avait Ajaccio, il n'y avait plus deux clubs en même temps.
Non, pas en même temps.
Non, en Ligue 2.
Bon. Deux clubs pro, c'est. Alors, Fred Hermel nous rejoint. Fredo, bonsoir.
Bonjour, les deux.
Salut Fred.
En première division. Hola, Ticos.
Toi, si je prends le Grand Madrid, t'en as 4 même.
Ouais, ah, le Rayo. Ouais. Le Rayo.
Non, Rayo. Non, première division. Leganés et Retafé.
Leganés, Retafé, ouais. Les deux, Atlético et Real. Voilà.
Mm-hmm. C'est dans une circonférence de 20 km.
Séville, t'en as 2.
Barcelone, t'en as 2.
Barcelone, t'en as 2.
Valence, Villarreal, je sais pas si ça compte.
Non, c'est Valence et Levante. Dans la même ville.
Et Levante. Villarreal, c'est loin de Valence.
Non, mais c'est pas la même ville. Hein.
C'est pas la même
ça
ville.
Fait ça fait un petit bout quand même. Non, mais il y a les Ventés et qui remontaient cette saison en première division. Et bien sûr, Valence qui marche du feu de Dieu, quoi. Hola, Tico, ça va?
Ça va, toi? Bon, il paraît que t'es en crise.
Aïe.
Moi, non.
Si.
Non, moi, je suis en crise quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à écrire. Et là, il n'y a pas de truc à raconter.
Ou quand il n'y a rien à manger.
Bah voilà.
Là, il y a à manger, là.
Ah, bah là, on est en train de manger la bête, là. On se sert sur la bête.
Alors, tout à l'heure, c'est François qui disait je ne comprends pas que Zidane dise qu'il ne comprend pas. C'est ça.
Comprends pas. Non, c'est pas que je ne comprends pas.
Donc, le Real a perdu 1-0 contre Villarreal.
Je trouve trop juste cette. C'est une seule phrase reprise, mais elle est pour moi assez parlante de sa conférence de presse d'après-match, qui n'a pas d'explication à donner. Il en doit à son public, il en doit au public, pardon, du Real Madrid, et aussi un petit peu le sien. Il en doit aux médias, et forcément, donc, à tous ceux qui suivent le Real. Il doit forcément, Fred, avoir au moins le début d'une explication à cette.
François.
À ce passage de mauvais résultats.
François Bernardo, toi et moi, on se connaît depuis des années. Quand j'ai entendu qu'il disait en espagnol, no tengo explicación, je n'ai pas d'explication, qu'est-ce que j'ai posé comme question à Zidane? Je comprends pas que tu dises que t'es pas d'explication. Mmh. Voilà.
Il a répondu.
J'ai pensé exactement la même chose que toi. Mmh. C'est-à-dire que, bon, après, il a essayé de répondre, j'ai pas tout compris, mais il est un peu.
On va l'écouter puisque tu nous as envoyé ça.
Je vais essayer de traduire alors, Fred.
On va l'écouter après le match perdu face à Villarreal.
J'ai pas d'explication. L'explication, c'est de se dire, en fait, il faut continuer à travailler et se dire qu'il faut gagner un match. C'est fondamental aujourd'hui de regagner. Il faut se serrer encore un peu plus les coudes, faire un peu plus les efforts. Parce qu'aujourd'hui, tout a été fait. Enfin, il y a eu du jeu, il y a eu des occasions. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on peut être critique et je peux l'être aussi avec mes joueurs. Aujourd'hui, en fait, quand je le dis, j'ai rien à reprocher à mes joueurs, mais je le pense vraiment. C'est sûr que moi, comme responsable, je dois trouver la solution.
En fait, ce qu'il y a, l'explication, il dit voilà. Quand on joue mal, je comprends que ça rentre pas et tout, sauf qu'aujourd'hui, on a bien joué. C'est vrai qu'en première partie, ça a été pas mal, ils auraient dû l'emporter. Mais quand ça va pas, ça va pas. Quand ça rentre pas, ça rentre pas, quoi. Il y a vraiment autant. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, le Real pouvait être mené 1-0 à la 89e minute, il gagnait quand même. Et là, parce qu'il y a ce petit surplus supplément d'âme, ce petit surplus de chance, de réussite, qu'ils ont perdu, quoi. Et c'est un peu la spirale de la loose, quoi. Donc, et aujourd'hui, le Real a un grand défi en Liga. Un énorme défi en Liga, sauver la quatrième place pour pas se retrouver en Ligue Europa la saison prochaine. On en est là.
Fred, alors, pardon Ali, mais Fred, je comprends du coup un peu mieux avec, quelque part, les explications quand même que fournit Zidane. Il parle de no-win situation, hein. Ils sont, voilà, dans la loose, comme tu l'as dit. Mais
Ce Real-là, moi je te pose aussi la question, double champion d'Europe, ce qui ne s'était pas vu depuis la fin des années 80 avec le Milan de Sacchi, champion d'Espagne qui fait le doublé C1, champion d'Espagne, ce qui ne s'était plus vu depuis le Real des années 50,
qui n'était pas champion depuis 2012.
Et qui n'était pas champion depuis 2012.
C'est surtout
Est-ce
ça.
Que c'est pas un effectif qui,
c'est
tout composé de stars qu'il est, gavé de titres et qui a un laisser-aller et que peut-être Zidane n'a pas anticipé.
Mais c'est-à-dire que c'est 8 titres en 2 ans sur 10 possibles. Il y a une fatigue physique, psychique. Puis quand même, enfin, vous connaissez le foot et toi François, tu as été dans une équipe nationale. Tu sais bien que Cristiano, c'est son dernier mondial, que Modric, c'est son dernier mondial, que Ramos, c'est son dernier mondial, que Marcelo, c'est son dernier mondial, et qu'à partir du moment où ils ont senti qu'en Liga, c'était plus possible, bah, ils lâchent en Liga. Après, en Coupe et en Ligue des Champions, ce sera pareil. Ce ne sera pas pareil.
Ça peut être une explication, mais en aucun cas une excuse, en revanche.
Non, il n'y a pas d'excuse. De toute façon, personne ne cherche d'excuse. Hein. Et Zidane, le premier. Hein.
Dis-moi, Fred, est-ce que on oublie, mais est-ce que le joueur le plus important de cette équipe, ça serait pas plutôt Ramos?
Bah, c'est vrai que dans un match, tu le diras, dans un match comme aujourd'hui,
parce que
on
même
peut pas reprocher aux Madrilènes de s'être battu. Donc, mais il y a certains matchs où Ramos, là, il est blessé. C'est le mec qui renonce jamais. Mais après, il fait des couilles aussi au niveau défensif, hein, Ramos. Bah, mais c'est pas le Ramos de l'an dernier non plus.
Non, je sais. Mais même s'il fait des couilles, cette équipe, elle se sent rassurée et rassurante dès que Ramos est là, même un Ramos moyen.
Oui, bien sûr, parce que il est tellement. Il représente tellement.
Et Varane, il reprend pas le flambeau du tout.
Dis-moi, il a été bien Varane. Enfin, franchement, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les médias espagnols qui l'ont noté. Mmh. Varane a été le meilleur côté Real Madrid.
Fred, je peux te poser deux questions directes.
Allez, vas-y. Sois franc.
Est-ce que Zidane sera sur le banc face au PSG dans un mois?
C'est même pas la peine de me poser la question parce que l'idée n'arrive même pas à l'oreille de Florentino Pérez. Quoi qu'il arrive, et moi je vous dis bien, quoi qu'il arrive, avant. Quoi qu'il arrive pendant et quoi qu'il arrive après le PSG, Zidane sera entraîneur du Real jusqu'à la fin de la saison.
Si le Real finit quatrième et ne gagne pas la Ligue des Champions, est-ce qu'il sera encore sur le banc l'année prochaine?
S'il a envie, oui.
Très bien.
C'est lui qui décide.
J'aime les réponses claires de Fred.
Ouais, mais parce que, mais on va dire pourquoi.
Attends, j'en rajoute une troisième. Ah. S'il n'est pas dans les quatre premiers et qu'il gagne pas la Ligue des Champions.
Ah, il s'en va. Lui, il s'en va. Parce que lui considérait ça comme un échec terrible. Ouais. Pas être dans les quatre premiers, c'est-à-dire aller en Europa League. Ouais. T'imagines le cataclysme pour le Real Madrid. Et aujourd'hui, parce que vous avez le Barça qui cartonne, vous avez Valence qui a encore gagné aujourd'hui qui cartonne, vous avez l'Atlético qui a encore gagné aujourd'hui qui cartonne, les trois premiers, on les connaît de la Liga. Maintenant, c'est une lutte entre trois. Hein. Le Real est largement écarté et le Real aujourd'hui doit défendre bec et ongle la quatrième place.
Donc ils jouent tout contre le PSG, quoi. Ils jouent leur saison contre le PSG.
Oui.
Pour résumer.
Oui, bien sûr. Oui. Ah oui. De toute façon, le Real joue toujours sa saison en Ligue des Champions.
Il reste la Coupe du Roi.
Mais non, attends. S'ils sont quatrième et qu'ils doivent absolument monter dans le train des trois premiers,
non, mais là,
ils vont pas jouer. Ils vont pas jouer leur saison seulement contre le PSG.
Oui, mais quatrième,
ils se battent.
Quatrième,
ils se battent.
Sévi qui gagne demain à Vitoria contre Alavés. Séville reviendrait au même niveau que le Real. Et grâce à sa victoire d'aujourd'hui, Villarreal revient à un point du Real. Avec un match en moins pour le Real Madrid.
Il n'y a pas que le PSG. Il faut qu'il regarde dans le rétroviseur aussi le Real.
Donc c'est quoi cette équipe du Real Madrid, Fred? Si elle n'a pas maintenant, en ce moment, être à 100% avec un Bale, un Ronaldo, un Benzema qui sera à 100% et un Ramos, c'est quand même pas la même équipe.
Non, mais le problème c'est qu'il y a une sorte de lassitude, voire de sentiment d'impuissance, parce que voilà, tu sais quand tu es au stade, côté joueur, tu vois leur visage, tu vois leur réaction, et tu sens qu'ils sont pas dedans, quoi. C'est hallucinant, quoi. Enfin, je trouve que c'est finalement, est-ce que c'est pas un peu normal? Et là, je parle à Ali qui a vécu tellement de moments comme ça. Il y a des moments où tu montes très haut. C'est tellement dur de. Peut-être que je défends trop les joueurs de foot en général. Le grand Barça n'a pas été capable non plus de gagner la Ligue des Champions deux fois et c'était dur. Et même des Xavi, Messi, Iniesta au sommet de leur art, Guardiola au sommet de son art. Bah, c'est tellement dur. Je pense que c'est la motivation et c'est dans la tête. Et il suffit que parfois qu'il y a un petit grain dans l'engrenage, ça marche pas comme avant, et puis tu commences à te à moudre un peu de, voilà, comment on appelle ça, du
moudre du café.
Tu sais c'est quoi qui, café, ouais. que quand t'es à ce niveau-là aussi haut et que tu gagnes autant qu'a gagné cette équipe-là, la seule chose qui permet à ces joueurs de se remettre en place, c'est la concurrence des nouvelles arrivées de joueurs importants. Et là, on sent que ces joueurs titulaires ne sont pas autant en concurrence que ça.
Ils sont quasiment pas. Parce que,
c'est le problème.
En fait, il y a eu de très bons recrutements, mais ce sont des gens très jeunes.
C'est des numéros 2.
Voilà. Et ce sont des jeunes qui seront très bons dans quelques années, mais qui aujourd'hui mm-hmm. sont pas des concurrents pour le 11 du Real, quoi. Donc,
mm-hmm. Les gars, on a Ali qui est là.
Oui, je suis là.
Un autre Ali. Au 32-16. Salut Ali.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Supporter du Real, bon. Qu'est-ce que tu penses de la situation?
Un peu déçu, mais franchement, moi, je mettrais vraiment le point sur une usure psychologique. C'est vraiment, pour moi, l'usure psychologique. Je mettrais pas ça sur le physique ou bien sur la concurrence, parce que ces joueurs-là, ils sont là depuis longtemps, et depuis longtemps, ils savent quel est leur objectif dès le début de saison. Ça veut dire, c'est soit la Liga, soit la Ligue des Champions. Ils ont pas besoin de toujours être en concurrence. C'est des joueurs, vraiment, ils sont là, ils savent... pourquoi ils sont là. Par exemple, on ne dira pas à Ronaldo quels sont les objectifs de cette année, parce qu'il sait très bien que lui, c'est soit la Ligue des Champions, soit la Liga. Pareil pour Modric, pareil pour Ramos. Donc la concurrence, pour moi, c'est pas totalement un argument, parce que eux, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire.
Ouais, mais Ali, habituellement, le Real Madrid, même quand il gagne, et ça, je peux demander à Fred, au bout d'un an ou un an et demi, il t'arrive toujours une star qui redistribue les cartes offensivement.
C'est plutôt quand tu perds, hein, en général.
Mais
parce que quand ça gagne...
Mais même quand ça gagne, il t'amène ta tour.
Ouais, c'est plus difficile. Parce c'est plus difficile de... Mais puis là, en plus, il faut expliquer une chose, c'est que Zidane a tellement de pouvoir dans ce club qu'à partir du moment où il gagne deux Ligues des Champions, qu'il dit au président, si tu touches pas mon équipe, je te promets une troisième Ligue des Champions.
Oui, il écoute.
Bah, c'est ça aussi.
Bah, il écoute, et c'est normal. Enfin, il y a un moment... Puis à un moment, c'est 8 titres en 10 matchs. Et moi, excuse-moi Ali, parce que je voulais exprimer une idée. Peut-être que c'est un peu égoïste de ma part. Je me permets de le mettre sur le plan personnel. Mm-hmm. Mais moi, ce qui se passe en ce moment au Real avec Zidane, moi, ça m'excite. Mm-hmm. Je me dis, dans l'histoire Zidane au Real, il faut aussi qu'il mange son pain noir. Parce que finalement, ça a été assez facile pendant deux ans.
C'est assez excitant de voir ce qui va se passer maintenant.
Complètement.
Ouais. Oui. Est-ce que Zidane, mais même, je pense que même lui, je le connais un petit peu maintenant, même lui, je pense qu'il se dit, voilà, on va le pousser dans son retranchement, il est en train de devenir entraîneur. Il est confronté à une situation qu'il n'a jamais connue comme entraîneur. Mmh. Bah, est-ce qu'il va s'en sortir? Peut-être que oui. Peut-être que non. Peut-être que c'est un entraîneur pour que, simplement quand ça marche, que c'est pas un entraîneur pour les équipes qui marchent pas. On va le voir. Et ça, il y a quelque chose de passionnant. Et je sais pas si Ali a envie de le voir ça aussi.
Oui, Ali, merci beaucoup.
C'est ce qu'on veut voir.
Deux, trois infos espagnoles. Michel viré par Malaga. Je pense qu'on peut se poser la question, au fond, de savoir si Michel est un bon entraîneur au bout d'un moment, quand même. Mais...
C'est un excellent entraîneur à qui le président de Malaga, le cousin Altani, a enlevé les trois quarts de ses bons joueurs cet été. Donc,
il reste quand même sur deux bides, entre Marseille et Malaga.
Oui,
là.
Oui. Bah, il faut voir les clubs et il faut voir les joueurs qui étaient mis à sa disposition.
Le Barça prête Arda Turan au club turc de Başakşehir. C'est le club d'Adebayor, là, le nouveau club qui monte à Istanbul.
A priori, en payant une partie de ses émoluments qui sont énormes, il est le quatrième plus gros salaire du Barça. Et au Barça, on prend.
Et puis le fisc enquête sur d'éventuels salaires déguisés du Barça à Messi dans le cadre de la fondation de Messi. Le club lui aurait fait des dons avec une déduction fiscale de 35%. On parle de près de 12 millions d'euros. Donc est-ce que c'est du salaire déguisé ou pas? Le fisc espagnol enquête. Ben nous, on paye par exemple Fred sur sa fondation, la fondation Fred Hermel.
C'est une fondation qui... Non, c'est vrai qu'on peut plus faire de blagues comme ça.
C'était un million d'euros.
Vous imaginez quoi? Vous pensez à ma fondation, hein? C'est pour les âmes... Esselé, vous connaissez, voilà. Enfin, on peut plus, mais
c'est pour une rencontre entre célibataires. Fred, merci.
Qui consentent, qui sont consentants, tout ça. Et sommet avec modération, on doit dire aussi.
Gamero revient un petit peu, ça fait plaisir ou pas? Ou c'est pour le vendre?
Mais c'est un bosseur. Franchement,
il a marqué pour la Gamero.
Non, mais il marque la victoire qui consolide la deuxième place de l'Atlético, qui avant le match du Barça demain est deuxième de la Liga. Franchement, si Gamero, vu la situation, par uniquement son mental et son courage et son talent, il a réussi à pas se faire virer pendant le mois de janvier, et ben ce sera uniquement dû à lui-même.
Fred, j'ai regardé Gironde Las Palmas. Tu me diras, faut être motivé, hein. 6-0 bien. Pour Gironde, et le commentaire était en espagnol. Excellente initiative de Bein. Et j'ai pensé à toi parce que à chaque fois que le gars rendait l'antenne, le commentateur espagnol, il disait à tout de suite pour la meilleure Liga du monde.
C'est génial. C'est, bah oui, bah je suis écouté aussi en Espagne. Les mecs, comment ça se rend compte?
Oui, oui, on sait.
Avec une traduction sous-titrée.
Les Espagnols ont besoin qu'on leur explique comment ils sont, et moi je suis là pour leur expliquer à eux aussi.
Merci Fredo.
C'était bien, Gérone. Hein.
Ouais, bah 6-0, ils ont énormément. Hein. C'est pas mal, Gérone. Petit stade, petite équipe.
Ah, c'est une bonne petite équipe.
Bon résultat.
La Spalma, c'est une famille. Salut Fredo.
Ah ouais, avec Palmas, je suis encore là, moi.
Allez, dans quelques instants, l'Angleterre, il va peut-être aller à Galatasaray, Loïc Rémy. Dans quelques instants, Philippe Auclair, pour conclure l'after, bien sûr, tous les résultats Ligue 1 européens sont sur rmcsport.fr, si vous ne les avez pas tous en tête.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Ils sont là, Docteur Muller et Prince Ali, François Vanardo, Ali Benarbia.
Docteur Muller, j'achète les amis.
Ah bah voilà, tu vois.
J'achète.
On a mis la photo sur le compte Twitter de l'After si vous voulez comparer. Mais tout le monde connaît Docteur Muller.
J'achète
avec le petit Abdallah.
Qui est Abdallah?
Ah bah c'est... le petit Abdallah dans Tintin, il est génial.
Il est toujours là.
C'est le fils du chèque.
D'accord, ok. Bon, très bien, mais j'achète Docteur Muller.
Le fils un peu, comment dirais-je, mal élevé du...
Il aime bien les chèques.
Ouais, il aime bien.
François, mais pas les fils du chèque.
Yes, et...
Bref, relis Tintin, ou lis Tintin. Ça fera partie de la culture générale, c'est important.
J'adore Tintin.
Crabeau pince d'or. Philippe Auclair nous rejoint, lui, il a lu tous les Tintins, Philippe. Salut Philippe.
Salut Gilbert, salut François, salut Ali, depuis Liverpool et pas depuis Londres pour une fois.
Oui, parce que demain il y a un gros match,
près de la
match du week-end en Angleterre.
Oui, l'un des matchs du week-end en Europe entre Manchester City, le leader, le futur champion, et puis une équipe de Liverpool qui présente sans doute un des plus gros dangers pour cette équipe de City, toujours invaincue en championnat d'Angleterre bien évidemment. Je crois que ça fait maintenant 30 matchs invaincus. En première ligue, ce qui est assez exceptionnel, mais un match bien évidemment qu'on attend avec beaucoup d'impatience, je dirais, plus à cause de l'opposition de style et du fait qu'on a affaire à deux équipes hyper joueuses qu'au véritable enjeu de la rencontre, parce que même si Liverpool venait à s'imposer demain, je ne pense pas que ça remettrait nécessairement en question la destination du trophée au mois de mai, voire bien avant, qui sera sans aucun doute à Manchester City, mais c'est vrai, c'est un match qu'on attend avec beaucoup d'impatience pour le spectacle qui devrait nous être offert en tout cas.
Qu'est-ce que t'en penses, Ali, ce Liverpool City, comment tu le vois?
On a comparé Citizen. Un peu ce match aller où Liverpool avait fait bonne impression dès le début du match et ils ont explosé après un petit peu Mané, la faute qu'il fait sur Ederson. Et après, bon, Manchester City a déroulé. Là, on va voir un petit peu la réaction de Manchester City. Si Liverpool met beaucoup la pression, mais ils sont tellement bons, ils sont tellement sereins, ils développent tellement un beau jeu qu'ils sont capables de bloquer cette équipe Liverpool pour s'exprimer et de les prendre en compte, parce que Liverpool, on le redit encore, ils sont très forts offensivement, mais derrière c'est pas aussi costaud que l'on pense, et Manchester City commence à être un peu plus costaud derrière.
Philippe, t'es d'accord?
Oui, je suis d'accord. Il y a aussi, mais même si j'ai un sentiment que Liverpool peut faire quelque chose de très positif dans ce match, il y a des raisons historiques pour ça et qui sont pas complètement. Je sais souvent quand on prend les matchs qui se sont déroulés auparavant, on va dire ouais, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais il y a un vrai problème pour City à Anfield. Ils ont gagné deux fois en 45 ans. Ils n'ont jamais fait le doublé en championnat sur Liverpool depuis 1936-37. Et puis il y a également le fait que Jürgen Klopp est un entraîneur qui a un excellent bilan avec ses équipes contre Pep Guardiola. En fait, c'est le seul entraîneur en activité aujourd'hui qui puisse se targuer d'un bilan de 5 victoires contre 5 défaites et 1 nul. Donc bilan absolument d'égalité parfaite avec des moyens souvent bien inférieurs à ceux de Pep Guardiola. Donc c'est franchement fascinant ce que l'on devrait voir demain, et je suis, comme beaucoup de mes confrères, convaincu que Liverpool est l'équipe qui peut faire mal à City, d'autant plus que City a fait des efforts, Ali, en League Cup, où ils ont eu un match très très compliqué contre Bristol City en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue, de la Carabao Cup, comme on l'appelle ici, que Pep Guardiola a très peu fait tourner son équipe également, et que tu te poses la question s'il y a un moment où le fait justement de ne pas avoir fait tourner, de se reposer sans arrêt sur le même groupe de 14 ou 15 joueurs, face à une équipe de Liverpool qui a eu une semaine complète pour se reposer, ça pourrait peut-être avoir un petit impact. Mais bon, je veux pas non plus vous faire de Liverpool le grand favori de cette rencontre, ça serait aberrant au vu de ce que...
Mais ça va être un beau match, très équilibré, ça je pense que oui.
Non mais par rapport au rythme de croisière qu'imprime City en première ligue,
voire même sur la scène européenne, on va pas toujours se répéter et dire la même chose. C'est sans doute le meilleur club au monde actuellement. Donc, il faut qu'on trouve, évidemment, je te blâme pas, hein, Philippe, quelque chose à dire, mais les stats que tu nous présentes, c'est exactement le genre de stats que je n'aime pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des statistiques. Alors, c'est impressionnant, hein. 2 victoires en 45 ans de la part.
J'ai gagné ce match-là.
Y était. Bonne chose. C'est énorme comme statistique, mais c'est des stats qui ne s'articulent qu'autour de l'histoire. Ouais. Et pas du rendement du des moment. Joueurs ou du rendement
je te rejoins assez
d'un
sur ces stats,
joueur ouais, du moment. En particulier.
Oui, sur un match. Sauf, oui, François, sauf que ces stats concernent beaucoup de joueurs qui sont présents à Manchester City comme à Liverpool et qui ont vécu cette situation, qui l'ont déjà vécu.
Certes, mais la dynamique est différente.
Victoire, c'était 2003, c'était quand Nicolas Anelka avait marqué son doublé. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Liverpool a connu de gros problèmes. Manchester City a connu cet énorme investissement avec des Émirats Arabes Unis. Tu vois ce qui s'est passé lors des années précédentes avec une équipe de Manchester City qui n'avait peut-être pas Guardiola, mais qui avait Mancini et qui a eu Pellegrini, qui avait des joueurs qui sont toujours en place aujourd'hui, qui seront sur la pelouse à Anfield. Ça joue. Et quant à l'opposition entre Guardiola et Klopp, je pense que ça joue également. Ça ne veut dire rien d'autre que Jurgen Klopp est un entraîneur qui ne fait pas de complexe par rapport à Guardiola, c'est une première chose. Deuxième chose, qui connaît son style de jeu et qui a su le maîtriser dans le passé en pratiquant un football qui est le même que celui... C'est deux entraîneurs qui ont des styles très très distinctifs. Je pense que si jamais tu mets une équipe entraînée par Klopp, tu pourrais la reconnaître. Une équipe entraînée par Guardiola, tu la reconnais à tous les coups. Et ça veut dire que t'as une vraie opposition de style. Et je suis comme Ali. Je me souviens de ce 5-0 à l'Etihad. On va dire que c'est délirant de dire ça. Mais je me souviens que c'est Liverpool qui avait causé, qui, à mon avis, causé le plus de problèmes à Manchester City depuis le début de la saison.
Les gars, il nous reste une minute. J'aimerais juste redire un mot d'Harry Kane, quand même, qui a mis un doublé, parce qu'Ali voulait en parler.
Complètement.
Donc, il a encore claqué de
avec Tottenham, évidemment. 4-0 face à Liverpool.
J'ai passé mon temps à le regarder, spécialement. Et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Sans ballon et avec ballon. Je crois qu'au niveau d'attaquant, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Pour une équipe, et Tottenham n'a pas non plus des joueurs pléthoriques exceptionnels, ils ont des bons joueurs, mais alors tout ce qu'il fait, tout est propre, tout est 10 sur 10, dans ses touches, ses contrôles, ses décrochages, même quand il y a 4 défenseurs et qu'il est seul devant le but, c'est lui qui est là pour la mettre au fond, et il utilise toujours les bonnes surfaces. Là, je pense que Monsieur Lévy fait tout ce qu'il faut pour garder cet attaquant et qu'il mette les moyens, c'est vrai, moi, c'est ce que je ferais.
C'est le patron de Tottenham. Philippe, merci beaucoup en tout cas.
Juste un tout petit mot pour saluer la performance de Leicester à Chelsea, qui va très mal, Chelsea. Je vous le confirme, au niveau du jeu.
0-0.
Ça va. Oui, mais un super Leicester qui a terminé à 10, avec un très très bon Riyad Mahrez, que vous pouvez vous en douter, ça va faire beaucoup jaser, parce que bien évidemment, il est au centre de toutes les rumeurs du Mercato en Angleterre, en ce mois de janvier.
Merci, bonne soirée, Philippe.
Salut, Philippe.
À très vite.
À très vite.
Je rappelle une dernière fois les résultats Ligue 1, les gars, il est quasiment minuit. Marseille gagne à Rennes cet après-midi 3-0. Lille gagne à Caen 1-0 ce soir. Dijon, Metz, un partout. Montpellier, Monaco 0-0. Nice bat Amiens 1-0. Et Bordeaux gagne à 3-1-0. Merci, Ali. Merci,
François.
Bonsoir. Salut, docteur. Demain soir, After sera là avec Jean-Louis Tour. Après le match entre le PSG et Nantes. Bonne nuit à tous.
RMC, le super football show, l'After Foot.